un temps pour lire.
Nous parcourons aujourd'hui un ouvrage intitulé « La croisière jaune, la grande expédition Citroën 1931-1932 », dont une toute nouvelle édition vient de paraître aux éditions Glénat en collaboration avec la Société de géographie, et ce dans le cadre du centenaire Citroën. Cette fabuleuse aventure restée dans tous les esprits, nous allons avoir le privilège d'en parler en compagnie d'Ariane Audouin-Dubreuil, auteure de ce livre et fille du commandant Louis Audouin-Dubreuil, qui fut chef adjoint de la croisière jaune. Ariane Audouin-Dubreuil, bonjour.
Bonjour, monsieur. Enchantée de vous entendre.
Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Radio Semnoz aujourd'hui. C'est un grand plaisir que de vous avoir au bout du fil. Avant la croisière jaune, appelée également expédition Centrasie, il y a eu la traversée du Sahara, puis la croisière noire. Qu'est-ce qui a conduit à ce projet de traversée de l'Asie sur la route de la soie ?
Écoutez, après la grande expédition, alors la première traversée du Sahara en automobile, la toute première, avec le franchissement du Grand Erg occidental, il fallait être un petit peu plus courageux encore et audacieux. Donc ça a été Alger, Madagascar, à une époque où la plupart des régions de l'Afrique n'avaient même pas de pistes tracées. Et la croisière jaune a été conçue comme une mission scientifique et culturelle. C'était l'intérêt principal de ce voyage, décidé par André Citroën, pour son prestige et pas autre chose.
42 hommes vont s'engager dans cette aventure. De qui était composée cette équipée ?
Alors, il y avait déjà deux groupes. Un groupe qui partait de Beyrouth pour rejoindre Pékin et l'autre qui partait de Pékin pour arriver à Kashgar, rond-point de la route de la soie où les deux groupes devaient faire jonction. Alors, de chaque côté, vous aviez 10 mécaniciens, hommes précieux, très courageux. Ils étaient même ingénieurs, plus que mécaniciens. Ils pouvaient vraiment créer une pièce qui pouvait manquer en cas de catastrophe. Et il y avait évidemment un chef à chaque fois qui gouvernait ces mécaniciens. D'un côté, Maurice Penaud, qui avait fait les deux premières missions, et de l'autre, Morizet, qui était avec le groupe Art Audouin-Dubreuil, qui partait de Beyrouth. Alors, en dehors de ces mécaniciens, vous aviez donc les deux chefs de groupe Art Audouin-Dubreuil, et puis des scientifiques, l'archéologue Joseph Aquin, qui était directeur du musée asiatique de Paris. J'allais oublier Victor Point, qui lui dirigeait le groupe Chine. Ensuite, vous aviez le révérend père Teilhard de Chardin, qui était là en tant qu'homme qui étudiait les terrains et qui a établi une carte de géologie de la Chine, la toute première. André Raymond, qui lui était naturaliste, délégué par le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Georges Lefebvre, qui était un historiographe et qui a d'ailleurs rapporté l'histoire de la mission. Il y avait le peintre Alexandre Yakovlev, qui était en pleine gloire à l'époque et qui avait déjà préparé les collections de tableaux de la croisière noire. Il y avait le cinéaste. J'oubliais le merveilleux photographe Ménard Owen Williams, qui était lui délégué par la Société de géographie de Washington. Et il y avait deux médecins, ce qui était important, un dans chaque groupe, de Delattre et Jourdan. Voilà pour la composition de la mission.
Ariane Audouin-Dubreuil, le mot croisière est souvent utilisé pour évoquer, en tout cas aujourd'hui, un moment de détente. Là, il s'agit d'une véritable aventure, d'autant plus dans une période troublée. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, le contexte de l'époque ?
Écoutez, le contexte de l'époque n'était pas très favorable à ce genre de voyage. Et c'était surtout à partir de la Chine. Au point de vue difficulté géographique, les choses sont beaucoup compliquées, évidemment. Donc, ils sont partis de Syrie pour traverser l'Irak. Par de grands incidents, à partir de la Perse à Téhéran, Kaboul, ils ont dû déjà avoir quelques ennuis, notamment à Nishapur, à Meshed, où ils ont été entourés près d'une mosquée tout à fait dangereusement, un vendredi saint. Et ils ont dû se dégager de la foule qui était vraiment très très hostile. En Afghanistan, ils ont dû infléchir à leur parcours beaucoup beaucoup vers le sud. Ils auraient dû traverser de Herat, ils auraient pu aller sur le col qui conduisait dans l'Hindoukouche au Pamir directement. Ils ont été obligés d'infléchir vers le sud, de faire une longue course de détournement en passant par Kandahar, Kaboul et enfin rejoindre la montagne. Alors là, c'était l'hostilité. Quant à l'hostilité, les difficultés, elles ont commencé évidemment en Chine, où le groupe qui arrivait de Pékin s'est tout simplement retrouvé prisonnier pendant plusieurs mois à Kashgar, prisonnier par le gouverneur Qing qui tenait la région du Xinjiang. Car l'enfer, ça a été évidemment la Chine, qui était partout en guerre, dans le nord de la Chine, à partir du désert du Taklamakan, et puis sur Urumqi, Turfan, Ani, c'était une guerre. Ensuite, ils ont traversé jusqu'à moins 30 degrés la Chine par Suzhou pour rejoindre Lanzhou, le fleuve jaune, et là, ça a été l'enfer du froid et le danger de croiser des éléments épars de l'armée. Il y avait également déjà Mao Tse-tung qui sévissait. C'était vraiment la révolution permanente. Ils ont été attaqués carrément à Pao Tao, dans le nord de la Chine. On leur a tiré dessus, ils ont dû sortir leurs armes, qui étaient camouflées dans les planchers des voitures. Voilà. Ils avaient des mitraillettes, évidemment ils n'ont pas tiré sur les hommes, mais ils ont fait beaucoup de bruit, ce qui a calmé les Chinois, c'était des sortes de bandits. Voilà. C'était le danger. Alors l'aventure géographique, eh bien, c'était évidemment la remontée vers les Pamirs par le Cachemire. Voilà, à partir de Srinagar, Gilgit, l'enfer d'un petit sentier muletier sur lequel il fallait faire sauter des rochers à la dynamite avant de se risquer avec la caravane d'ânes et de voitures.
Ce que vous nous résumez là, Ariane Audouin-Dureuil, évidemment, vous le racontez en détail dans votre ouvrage sur la croisière jaune. De très nombreux membres de la croisière jaune ont laissé des écrits, même des dessins, des photos, donc des films, à commencer par votre père. On en découvre de nombreux dans votre livre, hein, des écrits, oui, des facsimilés. Vous êtes donc plongé dans les archives familiales à la recherche de nouveaux documents. Racontez-nous cette recherche et ce qu'elle a généré pour vous.
Alors, la recherche, je l'ai menée il y a déjà bien longtemps. J'ai reçu en partage les archives de mon père. Je ne les ai pas tout de suite consultées, je les ai consultées 20 ans plus tard. Et j'ai fait une recherche pendant une vingtaine d'années en dépouillant toutes ces archives. Et petit à petit, j'ai découvert, mon père avait déjà, il avait son carnet de route personnel, 20 carnets d'une écriture très dense. Et il y avait également l'historiographe qui avait fait 4000 pages sur place. Tous les jours, il avait sa petite machine à écrire et le soir, il ne manquait pas de taper ses textes en direct. Donc j'ai découvert petit à petit. Et puis j'ai conservé le moindre de ces documents parce qu'il y en avait énormément entre les lettres échangées, les câblogrammes, les télégrammes, les communiqués. Alors là, vous avez non destinés à la presse, bien précisés sur ces câblogrammes bleus qui sont dans justement ces archives que nous livrons aujourd'hui. Mais il y avait également la préparation de la mission, l'itinéraire prévu, l'heure à laquelle ils arrivaient, car à l'époque, on n'avait pas beaucoup de passeports. On passait très facilement d'un pays à un autre. Je tiens à préciser, actuellement, on voudrait refaire la croisière jaune, ce serait absolument impossible. Voilà, alors c'était intéressant. Moi, j'ai découvert comme ça ce voyage, à travers tous ces documents, qui m'ont tous fasciné les uns et les autres. Alors évidemment, il y avait les passeports, les lettres qu'ils se sont échangées entre amis. Ah ben là, je ne sais pas si je réponds bien à votre question.
Si, si, tout à fait. Ça nous donne un beau panel de ce que l'on peut découvrir là à nouveau dans votre livre et qui est tout à fait passionnant. Ça nous fait remonter en arrière hein, de presque une centaine d'années bientôt. Quel regard est-ce que l'on porte aujourd'hui sur la croisière jaune?
Écoutez, il y a une curiosité de la croisière jaune extraordinaire, qui me fascine, parce que enfin, ils ont sorti plusieurs ouvrages sur la croisière jaune, et il semblerait qu'on en demande toujours un peu plus. Et c'est vrai que moi, livrer des documents comme ça, parce qu'au moins un tiers des documents sont livrés dans ce livre, c'est l'intérêt de ce livre. D'ailleurs, je saute du coq à l'âne, mais je pense que le lecteur aurait intérêt à commencer par se plonger sur les archives. Parce que ces archives, il les aura dans la tête pour traverser le parcours, pour suivre le parcours, cette grande aventure. Et je pense que ça donne tout un relief, parce que, ah oui, ils étaient habillés comme ça, ils faisaient ça, ils mangeaient ça, ils ne dormaient pas, ils dormaient, enfin vous voyez, c'est déjà toute une atmosphère avant d'entamer le livre. C'est peut-être pour ça ça l'intérêt de cette nouvelle édition.
Tout à fait, je partage absolument cet avis. Ariane Audouin-Dubreuil, vous avez vous-même vécu une telle expédition, alors non pas en Asie, mais en traversant l'Afrique jusqu'à Madagascar. Comment est-ce que vous pensez qu'il soit possible aujourd'hui de partir à nouveau à l'aventure ?
Écoutez, il y a beaucoup de pays qui sont très dangereux actuellement. Alors l'aventure serait beaucoup plus facile parce qu'il y a des routes. Pendant la croisière noire, c'était l'aventure pure, vous savez. Et je crois d'ailleurs, vous me posiez la question, c'est l'aventure, je crois, qui fait que les personnes aiment ce genre de livre, qui les fait partir, rêver, l'aventure avec un grand A.
Aujourd'hui, il faut partir au pôle, il faut partir dans l'espace pour vivre à nouveau une aventure de cette dimension.
Écoutez, je crois qu'il y a même l'impression première de ces hommes qui découvraient des régions que l'on ne connaissait pas. Il y avait encore en Afrique des régions comme ce qu'on appelait la forêt vierge maintenant la traverse, mais voilà, moi j'ai vu une Afrique d'expression française, anglaise et portugaise en 1960, c'était des pays modernes, il y avait de la route. Alors je pense que la façon dont les missions Citroën ont été menées, c'était l'aventure, parce que vraiment on ne savait pas sur quoi on tomberait.
Voilà donc l'occasion à travers votre livre, Ariane Audouin-Dubreuil, de partir pas si loin que ça dans le temps, mais c'est une autre époque, vraiment, avec ce livre La Croisière Jaune, la grande expédition Citroën 1931-1932. Il est disponible auprès des éditions Glénat. Ariane Audouin-Dubreuil, je vous remercie beaucoup de nous l'avoir présenté, de nous avoir fait ainsi voyager. Merci beaucoup.
Écoutez, j'espère que voilà, j'ai délivré un petit peu de rêve en perspective et ça m'a fait vraiment plaisir.
Ce plaisir était très partagé. Merci encore à vous.
Je vous en prie. À bientôt.
À bientôt.